Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée du média suivant, la presse. Au programme, des dirigeants plus forts et plus agiles. Les dessous controversés de Jésus. Des médecins musiciens qui veulent notre bien. Et web, papier, ciseaux. Bonne écoute.
Des dirigeants plus forts et plus agiles. Un texte de Jean-Philippe Descaries, paru le 8 avril 2023 dans La Presse. Depuis la signature de la Convention de la baie James en 1975 et de la Paix des Braves en 2002, les Premières Nations ont entrepris de s'organiser sur le territoire québécois. Un mouvement qui ne cesse de prendre de l'ampleur et qui s'incarne aujourd'hui dans la volonté des chefs d'entreprise des Premières Nations de s'affirmer davantage sur le plan économique. Avec la multiplication des projets de développement en partenariat avec des communautés autochtones comme celui du parc éolien Apuyat sur la côte nord ou les ententes de versement de redevances dans le cadre de plusieurs projets de développement minier dans le nord du Québec, les dirigeants des Premières Nations ont davantage de moyens pour assurer le développement et la pérennité de leur communauté. C'est dans cet esprit qu'est née il y a 2 ans l'École des dirigeants des Premières Nations, EDPN, une initiative créée par les représentants des différentes communautés autochtones en partenariat avec l'École des dirigeants de HEC Montréal. Sous l'impulsion de Manon Janotte, qui a été chef de la nation Mi'kmaq de Jespeg et de Kanrock, directeur général de la Société de développement économique de Ouachat-Mac-Manicoutinam, l'EDPN a entrepris l'an dernier la formation de différentes cohortes de chefs, d'élus, d'administrateurs et de gestionnaires de programmes des 10 grandes communautés des Premières Nations. Cet hiver, l'EDPN a accueilli son premier groupe formé exclusivement d'entrepreneurs. Au total, 16 chefs d'entreprise ont participé aux 4 grandes périodes de formation qui se sont déroulées en modules de 3 jours à Montréal, à Ouachat, à Wendake et encore à Montréal. Une 30aine de professeurs associés à HEC Montréal font partie du groupe responsable des différents modules d'enseignement. Et c'est le vendredi 31 mars 2023 que les 16 entrepreneurs des Premières Nations ont obtenu leur certification à l'occasion d'une cérémonie simple et chaleureuse qui s'est déroulée dans les locaux de l'École des dirigeants de HEC Montréal. Ça a été une belle réussite. Les participants sont arrivés bien préparés. Ils avaient réfléchi et articulé une vision stratégique pour leur entreprise lorsqu'ils ont fait leur présentation, dit Kanrock, directeur général de la Société de développement économique de Ouachat-Mac-Manicoutinam. Ça a été l'occasion pour eux de rencontrer des professionnels et d'échanger entre eux. C'est là qu'on apprend beaucoup, comme au EMBA, Programme de gestion pour cadres en exercice. « Je pense qu'ils en sortent mieux outillés », m'a confié Kanrock quelques minutes avant la cérémonie de remise des certifications. Apprentissage et échange. L'échange entre les participants semble effectivement avoir été l'un des éléments clés de cette formation d'une 100aine d'heures, selon les témoignages recueillis auprès de plusieurs chefs d'entreprise. C'est notamment l'avis de David Cloutier, qui a pris la relève de l'entreprise de son père, David Cloutier et fils, spécialisé dans les revêtements et les couvre-planchers et qui existe depuis plus de 40 ans à Wendake. J'ai travaillé plusieurs années à cette île dans le démarrage et le développement d'entreprises autochtones, principalement Huron et Innu. J'ai repris depuis 5 ans l'entreprise de mon père et j'ai beaucoup apprécié ma formation à l'école. Ça m'a permis de développer un réseau de contacts et surtout de partager ma réalité avec celle de mes collègues, observe David Cloutier. Joël Malek, propriétaire de Foresterie Miquan à Mingan, a participé à la formation de l'EDPN parce qu'il souhaitait avoir plus d'outils pour progresser et pour mieux développer ses relations avec les grosses entreprises avec lesquelles il fait affaire. Je voulais aussi partager de l'information avec d'autres entrepreneurs qui ont des enjeux semblables ou différents des miens, souligne l'entrepreneur Inou, qui est en train de démarrer une nouvelle entreprise de drones pour faire l'inspection des lignes de transmission d'Hydro-Québec ou pour collaborer avec la Société de protection des forêts contre le feu. C'est plus facile pour embarquer les jeunes qui sont habitués aux tablettes. Il y a un bon potentiel pour la formation, dit Joël Malek, propriétaire de Foresterie Miquan. Enfin, Yves Tremblay, que les lecteurs de la presse connaissent sans doute, puisqu'il a fondé il y a 25 ans Les Yeux du Ciel, une agence de photos aériennes dont les clichés pris du ciel sont souvent utilisés dans la presse plus pour illustrer des reportages de partout au Québec, a fait de sa formation une démarche identitaire. Je me suis replongé dans la culture Innu il y a 4 ans, au décès de mon père qui est né à Pessamit, mais qui a été élevé dans une famille québécoise. Mon mentor, François Colbert, vient de HEC, et c'était une belle façon pour moi d'en apprendre plus sur le leadership, le management et l'esprit de communauté, souligne le photographe aérien. La formation des dirigeants des Premières Nations s'est faite sur le thème « Solidifier et aiguiser ses aptitudes entrepreneuriales ». Et c'est cette impression de force agile que m'ont donné les entrepreneurs que j'ai rencontrés à HEC. C'était « Des dirigeants plus forts et plus agiles », un texte de Jean-Philippe Descaries, paru le 8 avril 2023 dans La Presse. Les dessous controversés de Jésus. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 9 avril 2023 dans La Presse. Jésus était-il écologiste? Est-il mort puceau? A-t-il seulement existé? Un nouveau livre fait le point sur des controverses entourant le Christ. Questions controversées sur Jésus, sous la direction de Sébastien Dohan chez Novalis. Deux de ses auteurs, les théologiens Anne-Marie Chaplot et Sébastien Dohan de l'Université Laval, répondent à nos questions. Pourquoi écrire ce livre? Anne-Marie Chaplot. C'est un livre pour permettre aux gens de délaisser une lecture trop littérale ou infantilisante, de ne pas s'empêtrer dans les questions historiques. J'utilise une approche d'analyse appelée sémiotique. On considère le texte comme un édifice dans lequel on peut entrer, qu'on peut visiter. Un peu comme les analyses de poèmes, on se demande ce que les différents aspects du texte évoquent. Sébastien Dohan. Il y a un moment, j'ai travaillé dans une école secondaire. Les ados ne s'intéressaient pas à la Bible, mais posaient quand même des questions sur des événements drôles, curieux ou insolites de l'histoire de Jésus. Y a-t-il un débat sur l'existence de Jésus? Sébastien Dohan. On a plusieurs mentions de Jésus chez des auteurs postérieurs et qui, donc, ne l'ont pas directement connu. Si on remet en question l'existence de Jésus, il faudrait aussi remettre en question celle de Socrate ou de Platon. Pourquoi s'attarder à sa fratrie et à ses ancêtres? Sébastien Dohan. Le Nouveau Testament commence avec une généalogie de Jésus qui est l'inverse d'une histoire sainte. Il y a des rois qui ont tué leurs enfants, des femmes qui font scandale. Les pères de l'Église ont expliqué que Jésus nous sauve des pécheresses. Je pense plutôt qu'il s'agit d'histoires d'espoir, qui montre qu'on peut toujours se démerder, même si on est dans des situations en apparence désespérées. Pour ce qui est des quatre frères et des sœurs de Jésus qui sont mentionnés dans la Bible, ils sont importants parce qu'ils ne deviennent pas les successeurs de Jésus. Son demi-frère Jacques se fait arbitre entre Pierre et Paul, mais Jésus veut transcender la tradition des clans. Traditionnellement, on ne parlait pas de la fratrie de Jésus pour préserver la virginité de Marie. Et à sa sexualité? Sébastien Dohan. Il n'y a rien d'historique dans sa relation avec Marie-Madeleine illustrée dans le Da Vinci Code. C'est basé sur un seul document, écrit 200 ans après la mort de Jésus. Il y a peu d'hommes célibataires et chastes dans la Bible. Le célibat de Jérémie reflète le drame de l'exil à Babylone. Mais quand Jésus parle d'eunuque au royaume des cieux, c'est positif. Ça peut signifier le choix radical de choisir la foi, ou alors la tradition de service des eunuques, qui étaient souvent des fonctionnaires, ou encore l'affection pour les marginaux. Vous revisitez l'histoire de Cana, où Jésus transforme l'eau en vin à une noce. Anne-Marie Chapelot. Des histoires comme celle de Cana ont un côté merveilleux. Après le miracle de Jésus, on déplore que le bon vin ait été gardé pour la fin du repas. Le verbe grec qu'on traduit par « garder » n'existe pas en français. Il signifie « tu as gardé et tu gardes toujours ». Ça a un sens spirituel. On le trouve souvent dans l'Évangile selon Jean. Tout converge vers Jésus sur la croix. On mentionne que la noce de Cana a lieu le troisième jour. C'est le même nombre de jours qu'entre la crucifixion et la résurrection. Il y a 6 jarres de vin. 6. C'est un de moins que 7, un chiffre qui est associé à être complet. Jésus était-il écolo? Anne-Marie Chapelot. Les causes environnementales m'intéressent beaucoup, mais c'est un anachronisme de poser la question. En Palestine, il n'y avait pas de parti vert, et à différents moments, Jésus n'a pas l'air très sensible au bien-être animal et végétal. Il ne s'émeut pas du nombre phénoménal de sacrifices d'agneaux et de bœufs. Jésus envoie des milliers de porcs où ont été déplacés les esprits de possédés se noyer dans la mer. Et il maudit un figuier qui le lendemain est tout sec. Jésus est fâché parce que le figuier n'a pas de fruits. Ce n'est pas la saison. Si on se recule un peu, on peut se demander quel symbole est derrière le figuier. Dans certains passages des Évangiles, un arbre est un perchoir. Dans d'autres cas, le lien entre le ciel et la terre. Ici, le figuier devient définitivement stérile. Il faut rapprocher ce passage avec la critique de la stérilité des prêtres du temple qui semblent effectuer une tâche spirituelle, mais finalement ne se soucient que de leurs propres intérêts. Jésus dévoile leur stérilité comme celle du figuier. C'était « Les dessous controversés de Jésus », un texte de Mathieu Perrault, paru le 9 avril 2023 dans La Presse. Des médecins musiciens qui veulent notre bien. Un texte d'Alexandre Vigneault, paru le 11 avril 2023 dans La Presse. Pour faire du bien autrement, des médecins du Saguenay ont fondé un imposant groupe de 14 musiciens amateurs, tous travailleurs dans le domaine de la santé, qui donne des concerts au profit de différentes causes. Coup d'œil sur le Doc Show, présenté pour la première fois à Montréal au Centre Leonardo da Vinci. On ne sait pas exactement d'où a émergé l'idée du Doc Show. Près d'une machine à café, dans un corridor de l'hôpital de Chicoutimi, autour d'un verre? Ce qu'on sait, c'est qu'elle est née au cours d'une discussion entre trois médecins un peu musiciens, dont le pédiatre et saxophoniste Zoher Ferjoui. Puisqu'eux-mêmes jouaient de la musique, ils se sont dit qu'il devait y avoir d'autres talents cachés parmi leurs collègues. « On a envoyé un courriel à tous les médecins de l'hôpital », se rappelle le pédiatre. Plus d'une dizaine ont répondu. Et des 14 qui ont intégré le groupe, 13 sont toujours présents. Il n'y a qu'une seule personne qui a changé sur les 14 depuis les débuts, en 2016, précise le docteur Ferjoui. Ce n'est pas un mince exploit, d'autant que trois des membres du groupe ne pratiquent même plus la médecine au Saguenay, mais dans d'autres régions du Québec. La bande du Doc Show a vu grand dès le départ. Son premier concert a eu lieu dans une salle de 400 places, ce qui n'est pas rien, quand on sait que la plus grande salle de Chicoutimi en compte 800. L'idée a toujours été de s'allier à une cause pour la soutenir financièrement et lui donner de la visibilité. Ce sera encore le cas le 22 avril 2023, lorsque le spectacle sera présenté au Centre Leonardo da Vinci dans l'arrondissement de Saint-Léonard au profit d'Autisme Montréal. Les médecins cherchent à aider les gens tout au long de la journée. Avec le spectacle, on veut faire du bien autrement, dit Zoher Ferjoui, pédiatre et saxophoniste. Ce bien-là, c'est aussi un peu pour les médecins, reconnaît-il, puisque de voir des professionnels de la santé jouer de la musique et s'amuser sur scène donne une image différente du médecin. Ce qui ne peut pas nuire, laisse-t-il entendre, quand l'état du système de santé fait en sorte que bien des gens entretiennent une relation d'amour-haine avec lui. Une autre façon de faire du bien, selon les membres du Doc Show, c'est de toujours garder en tête que les spectateurs doivent passer un bon moment. On ne veut pas que les gens s'ennuient, alors on ne prend que des chansons connues, qu'on ne fait pas nécessairement comme tout le monde les connaît, explique le pédiatre saxophoniste. On veut surprendre. On fait des intros, on change les finales, on les chante dans une autre langue. Sans trop vouloir en dire au sujet du répertoire, Zoher Ferjoui glisse tout de même les noms des Beatles, de Jean Leloup, de Sinatra et des B-52 pour lâcher son fou. Il y a aussi un sous-groupe dans le groupe, un quatuor qui joue de la musique classique, signale le pédiatre. À chaque concert, il y a un bloc de 15 minutes consacré à la musique classique. Ou plutôt, à des musiques de films aux orchestrations classiques. On fait même descendre un écran pour projeter des images des films dont sont tirées nos musiques, dit-il. Le docteur Ferjoui et ses collègues savent que les quelques milliers de dollars qui pourront être amassés au profit d'Autisme Montréal ne vont pas fondamentalement changer la donne au sujet de l'autisme, mais chaque petit geste compte, croit-il, pour attirer l'attention sur une cause ou aider des familles qui sont complètement démunies face à cette condition. C'était « Des médecins musiciens qui veulent notre bien », un texte d'Alexandre Vigneault, paru le 11 avril 2023 dans La Presse.
Web, papier, ciseaux. Un texte de Chantal Guy, paru le 7 avril 2023 dans La Presse. Tous les journaux du monde jonglent avec l'idée d'abandonner le papier et en ce sens, mon propre journal était à l'avant-garde en devenant entièrement numérique, ce qui lui a permis de survivre à la crise des médias après l'arrivée des GAFAM. Je n'ai ressenti aucun regret lors de ce passage, même si je me dis que les générations futures ne pourront plus tomber sur un de mes articles imprimés en trouvant de vieux journaux dans un grenier. Malgré tout, je demeure attaché au papier, comme en témoignent les centaines de livres que je persiste à conserver chez moi et mon obsession pour les petits carnets Moleskine dans lesquels je gribouille des notes en pâte de mouche que personne ne peut déchiffrer. Je possède aussi un coffre qui contient ma correspondance écrite du monde d'avant les courriels, où il n'y avait pratiquement plus eu de nouvelles archives depuis les années 2000. Il est difficile de prendre du recul sur une révolution quand nous sommes en pleine dent, mais personne ne contestera qu'il y en a une depuis l'avènement de l'Internet, que d'aucuns considèrent comme le plus grand bouleversement que nous ayons vécu depuis l'invention de l'imprimerie à caractère mobile de Gutenberg. Voilà le vaste sujet au cœur du très beau documentaire « Au-delà du papier » d'Oana Sutö-Kintirian, dans lequel elle pose de nombreuses questions qui demeurent ouvertes. Que deviendra la mémoire humaine quand elle ne reposera plus que sur des supports externes, ce qui inquiétait déjà Socrate en son temps? La disparition de l'écriture à la main au profit des claviers ne nous coupe-t-elle pas d'un geste créatif quand on sait que l'apprentissage passe aussi par le corps tout entier? Nous mettons-nous en danger en créant d'immenses archives numériques qui sont menacées par la rapide obsolescence des technologies, au contraire de ces manuscrits qui ont réussi à traverser les siècles? Mais ces technologies ne nous permettent-elles pas aussi de les protéger? La grande question étant, que voulons-nous préserver? Que voulons-nous transmettre? Dans cette quête qui lui a pris une décennie, la réalisatrice roumaine d'origine arménienne qui vit aujourd'hui à Montréal s'inspire des lettres de ses ancêtres écrites à la fin du 19e siècle qui racontent le destin de sa famille éparpillée aujourd'hui un peu partout dans le monde. Des documents précieux pour elle et ses proches qui se demandent comment les conserver, car ils expliquent cette dispersion du génocide arménien en Turquie à l'exode en Roumanie en passant par l'immigration après la Révolution roumaine de 1989. L'intérêt de la réalisatrice pour la protection des archives matérielles lui vient d'ailleurs de sa mère, qui ne s'est jamais remise de l'incendie de la bibliothèque de Bucarest où elle travaillait. Elle pleure encore ses milliers de livres disparus pour toujours. Au-delà du papier est un documentaire impressionniste, avec notamment Radiohead en bande sonore, visuellement magnifique qui nous fait voyager au sein des plus belles bibliothèques du monde. De la vieille ville de Tshingeti en Mauritanie, où la bibliothèque Abbott abrite des manuscrits recopiés de livres provenant de la célèbre bibliothèque disparue d'Alexandrie, à Buenos Aires où l'on discute avec Maria Kodama, disparue en mars dernier, veuve de l'écrivain Jorge Luis Borges, qui avait pressenti l'invention du web avec sa bibliothèque de Babel, en passant par l'Italie, la France, la Roumanie et San Francisco, où depuis des années on tente ce rêve fou et probablement impossible de préserver la mémoire numérique de l'humanité chez Internet Archive à raison d'un milliard de pages par semaine. On finit par comprendre que nous sommes dans une période fragile et charnière, où tous les supports, matériels et virtuels, se côtoient, sans savoir lesquels survivront le mieux, car tous s'entendent pour dire que tout ne pourra pas être sauvé, ce qui nous plonge dans une étrange mélancolie. Cela repose sur les usages aussi, et il n'est pas exclu que les êtres humains veuillent, dans l'avenir, garder ce qui a le plus de sens pour eux. Un petit détour dans les bureaux de Moleskine en Italie confirme d'ailleurs l'immense popularité de ces célèbres carnets qui servent autant à écrire qu'à dessiner, dans une sorte d'écologie de l'esprit, et il ne faut parfois pas plus que ça pour approcher le bonheur. Des millions d'années d'évolution ne peuvent tout de même pas aboutir à ce que notre main ne fasse que scroller sur un iPhone. Comme le rappelle le mathématicien et philosophe des sciences Cha-Xing-Wei, si le cyberespace semble être infini et promettre toutes les libertés, dans cet espace, il n'y a pas lieu, c'est-à-dire qu'il n'y a ni début, ni fin, ni centre, tout le contraire des bibliothèques qui ont l'avantage de nous réunir physiquement avec les autres et le savoir. C'est peut-être pour ça aussi que dans l'histoire, les hommes ont souvent voulu les brûler. Demain, ce sera peut-être l'intelligence artificielle qui fera des incendies virtuels. Qui sait? Au-delà du papier, documentaire Doana Suteu-Kintirian est présenté à la Cinémathèque québécoise jusqu'au jeudi 20 avril 2023. C'était Web, papier, ciseaux, un texte de Chantal Guy, paru le 7 avril 2023 dans la presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage et Robert Chartier à la lecture, Francine Thériault et Daniel Veillette à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.